Europe Soir,
le 18-20,
Isabelle Milleux.
Et on ouvre ce soir le débat des grandes voix du vendredi à 18h32 sur Europe 1. Avec ce soir à mes côtés, un nouveau venu, tiens, dans ces grandes voix, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bienvenue, bonsoir.
Merci Isabelle. Bonsoir.
Henri Vernet, rédacteur en chef au Parisien. Et Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle. Bonsoir.
Merci beaucoup à tous les trois de m'accompagner ce soir. Alors Emmanuel Macron a revêtu Charlotte et blouse blanche ce matin pour visiter l'usine du groupe Delpharm en Eure-et-Loir, qui vient de commencer à mettre en flacon le vaccin de Pfizer-BioNTech. Alors que la France a franchi le cap des 10 millions de vaccinés qui ont reçu une première dose, on a l'impression que ça y est, cette campagne, elle est enfin sur les rails, sauf qu'il y a toujours cette méfiance envers AstraZeneca. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a annoncé que les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca, donc, recevront une seconde dose d'un autre vaccin, ARN, cette fois-ci, Pfizer ou Moderna. Ça concerne quand même 533 000 Français, c'est beaucoup, majoritairement des personnels soignants. Alors on a un petit peu de mal à suivre, je ne sais pas vous, mais cette décision de la Haute Autorité de Santé, est-ce qu'elle ne risque pas d'embrouiller un peu les Français et d'alimenter encore cette méfiance, Henri Vernet ?
Bah oui, certainement. Là, vraiment, si on avait voulu brouiller le message et décourager, j'allais dire, les bonnes volontés, on ne pourrait pas s'y prendre autrement. Surtout que là, vous citez une haute autorité, mais dans le même temps, aujourd'hui, on a plusieurs autorités qui se sont exprimées, autorités scientifiques, médicales, j'entends, en France, mais également dans d'autres pays. Et en gros, chacun y va de sa prescription concernant ce vaccin, l'AstraZeneca. Alors, c'est différence liée à l'âge. Je crois que pour les uns, les Britanniques, c'est 30 ans, les autres, c'est 55 ans. Deuxième dose ou pas deuxième dose, en effet, est-ce qu'on peut mélanger ou pas ? L'OMS, j'entendais tout à l'heure, qui a quand même un petit peu la main depuis le début, même si elle est décriée sur cette affaire de vaccination, dit que non, il déconseille cette espèce de, j'allais dire, de cocktail de sérum.
Oui. Il dit même que l'interchangeabilité des vaccins n'est pas quelque chose à recommander à ce stade.
Donc oui, personnellement, je n'ai rien d'un médecin, ni d'un épidémiologiste, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que le bon sens conduirait à dire que oui, c'est quand même un drôle de mélange. Et puis en France même, encore une fois, des départements qui, eux, de toute façon, disent non, de toute façon, AstraZeneca, on n'en veut pas, parce que nous, on a des variants, c'est-à-dire les départements de l'Est. Bref, comment s'y retrouver ? C'est de nouveau un couac extrêmement important, alors avec ce vaccin, mais pas que celui-là, alors qui n'est pas spécialement dû à la France, hein, c'est là, ça tient au vaccin. Néanmoins, il y a en effet un brouillage de messages au moment où, en effet, avec les vaccinodromes, la grande innovation, là, c'était les vaccinodromes, on a enfin compris que la vaccination, maintenant, c'est l'axe principal, il n'y a pas d'autre stratégie en France. Hein. Stratégie du zéro Covid, dépistage, traçage, isolement, ça c'est terminé, donc on est là-dessus. Eh bien, cette stratégie, à peine lancée, elle est handicapée par cette nouvelle affaire.
Un brouillage de messages, dites-vous, Henri Vernet. Emmanuel Macron, pourtant, il a tenté de rassurer ce matin encore. Il a défendu l'utilisation de ce vaccin AstraZeneca.
Je me fie aux autorités sanitaires pour vous dire que le vaccin AstraZeneca, il est aujourd'hui recommandé, il doit être utilisé en suivant ses préconisations en termes d'âge. On ne l'utilise pas pour les plus jeunes, mais pour les plus de 55 ans, on l'utilise aujourd'hui, surtout quand on a un facteur de risque.
Je me fie aux autorités sanitaires, dit Emmanuel Macron aujourd'hui. Louis Osalter, il fait ce qu'il faut pourtant pour rassurer le chef de l'État ?
Oui, alors le problème de Macron, c'est que, et d'ailleurs il a commencé à l'esquisser timidement ce matin, c'est qu'en fait il n'a pas cru à un vaccin aussi rapide. Depuis le début de l'histoire, l'une des raisons pour lesquelles la France patine au niveau des vaccins, c'est que le sommet de l'État, et Emmanuel Macron en particulier, n'ont pas cru que Pfizer, notamment, allait mettre au point aussi rapidement un vaccin avec une technologie aussi avancée, qui était l'ARN messager, qui est le vaccin qui a bien meilleure réputation qu'AstraZeneca quand même depuis le début, qui est efficace, y compris visiblement contre les variants. Donc Emmanuel Macron qui aime bien faire des paris, là pour le coup ce pari-là il ne l'avait pas fait. Alors il n'est pas médecin, hein, je ne suis pas en train de dire que tout le monde
avait... Tout le monde a l'impression que c'est le meilleur en France.
Sur les médecins, oui, alors il paraît qu'il est épidémiologiste de très haut niveau, mais en réalité non seulement il n'est pas médecin, mais en plus il n'avait pas cru à ce qu'un vaccin débouche et arrive aussi vite en Europe. Bon, maintenant c'est le cas, il essaie d'organiser cette campagne de la moins pire des façons. Le problème du vaccin AstraZeneca, c'est que finalement, là où le fait de ne pas l'employer pour les moins de 55 ans a beaucoup de sens, c'est que les médecins ont beau marteler le calcul bénéfice-risque pour les vaccins. Si vous avez moins de 30 ans, depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire depuis le 1er mars 2020, il y a eu uniquement 74 morts de moins de 30 ans du Covid à l'hôpital. Donc si vous avez moins de 30 ans en France et qu'on vous propose un AstraZeneca, je comprends que vous y réfléchissez quand même à deux fois avant de prendre un vaccin pour lequel l'Agence européenne du médicament a pointé hier la réalité, effectivement, en tout cas le lien avec les thromboses et les caillots sanguins est possible et qu'il pose problème en France, mais aussi dans d'autres pays européens. J'ajoute un dernier chiffre accablant pour Emmanuel Macron, là aussi, c'est qu'on est à 15% de Français vaccinés. On nous martèle le chiffre des 10 millions de premières doses, qui sont que des premières doses. En pourcentage, c'est 15% de la population aux États-Unis et en Angleterre. C'est la moitié de la population aujourd'hui qui a reçu une première dose. Là, le comparatif risque quand même énormément de jouer politiquement en défaveur pour le chef de l'État.
Je propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. Je vous donne la parole, c'est promis. Louis Dragnel, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h39, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1, avec toujours à mes côtés Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, et Henri Vernet, rédacteur en chef au Parisien. On revient donc sur cette défiance qui continue encore et encore autour du vaccin AstraZeneca, alors que aujourd'hui la Haute Autorité de Santé a annoncé que les moins de 55 ans qui ont déjà reçu une première dose recevraient une seconde dose, mais cette fois d'un vaccin à ARN, Pfizer ou Moderna. Alors il y a de nombreuses voix politiques et scientifiques qui disent aujourd'hui qu'il est hors de question de perdre des doses face à cette défiance et qu'il faut donc les proposer ces AstraZeneca à tous ceux qui le souhaitent finalement, à tous les volontaires, en les mettant bien sûr au courant des risques. C'est le cas notamment de Valérie Pécresse.
Il y a beaucoup de Français qui sont prêts à se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Il y en a plein. Donc si on s'aperçoit que les personnes prioritaires, c'est trop restrictif et qu'on n'arrive pas et qu'on reste avec des doses, il faut se fixer un principe simple. Zéro gaspillage, zéro stock, ça veut dire pouvoir ouvrir la vaccination au-delà des personnes autorisées s'il reste des stocks, s'il reste des vaccins.
Louis Dragnel, vous pensez qu'elle a raison, Valérie Pécresse. Elle n'est pas la seule, je précise, à dire ça. Il y a aussi des infectiologues qui partagent son avis, qui disent arrêtons ces critères de comorbidité, expliquons simplement les risques, qui, on le rappelle, sont quand même minimes. Et puis donnons-le à ceux qui en veulent, finalement.
Bien sûr, mais ce que vous venez de dire est très important, c'est qu'en fait, c'est epsilon, c'est quasiment rien. En fait, il y a très, très peu de cas il y a très peu de risques de thrombose. Alors effectivement, à chaque fois, ce sont des cas dramatiques. Mais quand on compare avec d'autres vaccins, même des vaccins contre le tétanos ou d'autres vaccins un peu que tous les petits Français ont pendant leur enfance, ouais, c'est quand même assez marginal. Ensuite, moi, je trouve que oui, au point où on en est, en fait, le discrédit sur le vaccin, il est avéré. Je crois que Henri Vernet et Louis Osalter l'ont bien démontré. Il y a eu des échecs politiques, il y a eu une incapacité aussi de la part du pouvoir d'Emmanuel Macron à expliquer à rassurer les Français, parce que pas oublier quand même qu'Emmanuel Macron aussi avait annoncé la suspension de la vaccination avec le vaccin AstraZeneca pendant 48 heures. Donc ça participe de la défiance. Donc maintenant, voilà.
Et s'il ne l'avait pas fait, on lui aurait peut-être reproché. Donc
oui,
c'était compliqué
à ce moment-là
aussi.
Il s'était appuyé sur aucune donnée scientifique française. Il s'était appuyé en fait simplement sur la décision de l'Allemagne, ce qui pose d'autres problèmes de souveraineté, d'autonomie. Mais du coup, en fait, au point où on en est, en fait, oui, s'il y a des gens qui veulent se faire vacciner avec AstraZeneca, qu'ils se fassent vacciner et que chacun, qu'on ne crée pas des files d'attente avec des gens qui acceptent ce vaccin dont beaucoup de gens ne veulent plus.
D'autant que vous le rappeliez, on estime que le risque de faire une thrombose après avoir été vacciné est de 0,0006%, alors que le risque de faire une thrombose en prenant la pilule, par exemple, est de 0,06%. La pilule est donc, sur ce point, 100 fois plus dangereuse. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire passer ce message, Henri Vernet ? Il a vraiment un mauvais karma, ce vaccin.
Ah mais oui, complètement, parce que comme Louis venait de le rappeler, il y a eu la suspension décidée par Emmanuel Macron, bon, par d'autres pays européens aussi, il faut bien le dire, en effet. Mais avant même cela, le chef de l'État avait, vous savez, il avait réuni quelques correspondants de la presse étrangère. C'était un mois auparavant. Enfin, le AstraZeneca venait à l'époque d'être autorisé après un processus un peu chaotique. Et déjà là, il avait mis en doute son efficacité, sa pertinence. Il faut dire qu'il y avait un petit arrière-fond politique aussi, parce que AstraZeneca, c'est le vaccin des Britanniques, d'Oxford. D'ailleurs, largement subventionné à l'époque par l'Union européenne dans ses recherches, et donc britannique, suédois. Bon, et évidemment, c'était l'arme de Boris Johnson, qui avait tellement perdu de terrain en termes d'opinion, qu'il a la repris avec une vaccination qui a marché. Et c'était une façon de dire à AstraZeneca, regardez le Brexit, nous, Britanniques, on est vaccinés. Donc ça, en arrière-plan, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a joué. D'ailleurs, parfois, on a entendu des ministres, minimiser un petit peu le succès de cet AstraZeneca. Je me souviens, par exemple, de Clément Beaune, tempérer tempérer les succès de vaccination du ministère des Affaires européennes, tempérer les succès britanniques en la matière. Donc il y a aussi cette petite rivalité. Et c'est vrai que ce vaccin, passez-moi l'expression, il en a un peu pris plein la figure. Bon, est-ce que maintenant, il peut remonter la pente avec les derniers avatars? Ça paraît pas facile. C'est pas évident. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Louis Draguignel. C'est vrai que les bénéfices la balance bénéfice-risque, oui, dans une pandémie qui dure encore, qui est toujours aussi dangereuse, eh bien oui, les volontaires, je dis personnellement, si on me propose une dose de Zeneca, a priori je suis preneur, j'en ai marre de faire des tests tous les 8 jours. Je pense que beaucoup de gens, parce que pour le moindre déplacement, c'est ce qu'on vous demande, et je pense que beaucoup de gens sont dans cette réflexion. C'est vrai que la hâte, c'est quoi aujourd'hui? C'est quand même de reprendre une vie normale, que ce soit sur le terrain social, économique, etc. Et donc oui, ça paraît une solution de bon sens. Simplement, les volontaires, il va peut-être aller falloir les chercher avec les dents, comme dirait...
Ça ne doit pas être facile aujourd'hui, Louis Osalter, d'être médecin quand on entend tous ces messages un peu contradictoires. Qu'est-ce qu'on dit aux patients? Est-ce que vous, par exemple, comme Henri Vernet, vous seriez prêt à dire banco l'AstraZeneca, il en reste une dose, j'y vais?
Oui, franchement, parce que Henri Vernet a raison. En fait, non seulement... c'est un coût-bénéfice-risque qui est largement favorable au fait de se faire vacciner, quelle que soit la tranche d'âge d'ailleurs. Mais en plus, il n'y a pas d'autre stratégie. C'est-à-dire qu'en France, après s'être converti au vaccin sur le tard, parce qu'Emmanuel Macron n'y a pas cru au début, maintenant il mise tout là-dessus parce qu'il n'y a pas d'alternative, comme on aurait dit à une autre époque. Il n'y a pas de traitement, ou en tout cas le gouvernement n'a pas investi, n'a pas misé sur les traitements en tant que remède au Covid-19. Donc, il n'y a pas de stratégie zéro Covid parce que, en fait, la stratégie zéro Covid, on ne peut la mettre en place qu'une fois qu'on a fait baisser significativement la circulation du virus et qu'ensuite, on fait du dépistage cas par cas, on trace le virus partout où il est. Et là, en France, c'est devenu complètement impossible étant donné l'explosion de l'épidémie. Donc, la seule arme du gouvernement, c'est le vaccin. Je constate quand même que le message passe mieux qu'avant. Si vous regardez les taux de défiance envers le vaccin avant qu'il arrive, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, on est quand même à des taux assez astronomiques. Et d'ailleurs, le gouvernement a aussi été prudent à cause de ces chiffres-là. C'est parce que sentant dans le pays une défiance à l'égard de vaccins qui utilisait en plus une technologie mal connue, pas encore utilisée en population générale, avait freiné un peu des cas de fer en disant « attention, le vaccin, on va y aller progressivement, on va laisser les autres vacciner d'abord, on va voir comment font les Anglais, comment font les Allemands ». Bon, résultat, ça a marché, mais au-delà de toutes ces espérances et un peu malgré nous, puisque les Américains, les Anglais ont vacciné plus vite que nous. Mais il n'y a pas d'autre stratégie, donc je pense que le message passe mieux et que les Français voient effectivement que c'est le principal levier, et en tout cas celui qui pourrait ramener le plus vite la vie plus normale, selon l'expression du porte-parole du gouvernement, qu'on attendait pour la mi-avril. À mon avis, ça sera pour un peu plus tard.
Je vous donne la parole, Louis Draguignel, mais on découvre à l'instant, là, avec cet urgent de l'agence France Presse, qu'il y aura un retard sur la moitié des livraisons de vaccins AstraZeneca, encore la semaine prochaine pour l'Union européenne. Pas de chance, décidément, mauvais karma, ça continue.
Non, mais ce vaccin vraiment est maudit. Je dis ça en rigolant, mais en fait, il y a aussi une responsabilité de la part de cette entreprise qui, en fait, a voulu aussi convaincre les dirigeants européens, montrer ses capacités. Et on voit bien qu'en fait, ils n'ont absolument pas honoré leurs promesses. Mais c'est même pas honoré à 80%. C'est qu'on voit bien, ils ont en fait honoré 20% du contrat qui les liait avec l'Europe. Donc c'est comme si vous achetiez une maison et que vous arrivez devant votre hypothétique maison et qu'il n'y a qu'une seule porte, quoi. C'est un peu ça avec AstraZeneca. Et du coup, tout ça participe aussi de sa mauvaise réputation. Et c'est vrai que au point où on est la réputation d'AstraZeneca, d'ailleurs ils ont changé de nom pour essayer d'évacuer toute cette mauvaise réputation, ils peuvent plus se permettre le moindre retard. Enfin, c'est comme le mauvais élève qui récidive. Hein.
Le mauvais élève récidive, effectivement. On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant, les grandes voix. On va changer de sujet. Tiens, on va s'intéresser à ce nouveau coup de froid dans les relations franco-algériennes après l'annulation hier soir à la dernière minute de la visite de Jean Castex qui était prévu pour ce dimanche à Alger. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h50, c'est la suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, Henri Vernet, rédacteur en chef parisien, et Louis Draguignel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors la visite officielle du Premier ministre Jean Castex en Algérie, qui devait avoir lieu ce week-end, a été annulée hier soir à la dernière minute, officiellement en raison de la crise sanitaire, officieusement parce que les Algériens trouvaient que la délégation française n'était pas à la hauteur. Une délégation pas à la hauteur alors qu'il y avait quand même Jean Castex et quelques ministres de poids comme Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire. Vous y croyez, vous, à cette excuse, Louis Dragnel ?
Ah mais absolument pas du tout, parce qu'en fait, les Algériens font ça quasiment systématiquement. La dernière fois, lorsque Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, voulait aller à Alger de la même manière, son voyage a été ajourné. Et en fait, c'est systématiquement comme ça. En fait, rien ne convient aux autorités algériennes dans toutes les propositions que fait la France. Il y a eu le rapport Stora sur la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la guerre d'Algérie, où franchement la France n'a jamais fait un pas aussi avancé à l'égard de l'Algérie. Et les Algériens veulent toujours, toujours plus. En fait, ils sont insatiables. Ce pouvoir, vraiment, nous en veut énormément. Et en fait, à chaque fois, on est tributaire d'enjeux nationaux internes à l'Algérie, puisque la haine anti-française, anti-français, en fait, permet de capitaliser politiquement. Et à chaque fois, en fait, on envoie des gestes. Il y a quelques années, au moment où on a mené la coalition pour créer le G5 Sahel, pour lutter contre l'État islamique dans l'Afrique de l'Ouest, au Sahel, eh bien, on avait décidé en fait de créer les accords, de faire signer les accords à Alger, précisément pour mettre l'Algérie au cœur du dispositif. Et en fait, les Algériens n'ont absolument rien fait dans l'opération. Et sur tous les sujets, c'est comme ça. On nous reproche systématiquement la colonisation. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, c'était quand même excusé, avait parlé de crimes contre l'humanité à propos quand même de l'action des militaires français pendant la guerre d'Algérie. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Et en fait, ils ne sont jamais satisfaits. Et même, je reviens simplement sur le rapport Stora. Donc nous, on a tendu la main. Que répondent les autorités algériennes il y a quelques semaines? Elles disent en fait, ça ne nous convient pas. Et surtout, nous, on refuse de donner l'accès de nos archives aux chercheurs français. Donc en fait, sur toute la politique, à chaque fois, c'est extrêmement compliqué. En matière migratoire, c'est exactement pareil. Par exemple, un clandestin sur deux qui a la nationalité algérienne, qu'on cherche à expulser en Algérie, eh bien l'Algérie ne reconnaît pas ses ressortissants comme étant les siens. Et voilà, sur tous les sujets, c'est comme ça. Et à chaque fois, on est tributaire de problèmes internes à l'Algérie. Et on n'ose pas, en fait, s'affranchir de cette culpabilité. Du coup, c'est une espèce de spirale infernale et jamais un politique français n'ose dire maintenant, ça suffit. Et je pense qu'il serait grand temps qu'on le dise parce qu'en fait, on n'a pas à s'excuser de tout. Moi, la guerre d'Algérie, j'étais pas né quand ça s'est produit. J'ai pas à m'excuser de ça. En revanche, bien sûr, il faut regarder l'histoire dans son intégralité. Mais voilà, je pense qu'on est quand même arrivé à la fin d'un cycle dans les relations avec l'Algérie. Et maintenant, il faut assainir quand même ces relations, avoir des relations normales comme avec tout pays classique. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est toujours pas le cas.
Il est très très dur hein, ce constat, Louis Dragnel. Vous êtes d'accord avec ça, Henri Vernet ?
Alors, en bonne partie, oui, c'est vrai que là, c'est une relation qui est passionnelle, qui est imbriquée, qui est presque viscérale entre ces deux pays. Et donc, c'est une relation, vous l'avez dit, qui est extrêmement tributaire des enjeux internes. Alors, cela dit, quand vous parlez de haine anti-français, moi, je suis beaucoup plus mesuré. Disons que c'est... Alors, d'abord, ça ne concerne pas la population. Ça, il faut bien le comprendre. Vous l'avez bien dit. La plupart ne sont pas... 75% des Algériens ont moins de 30 ans. Donc, non seulement, ils n'étaient pas nés par la guerre d'Algérie, mais ils n'étaient même pas, enfin leurs parents non plus, quoi. Donc ça, et ils n'ont pas ce ressentiment anti-français que cultive en effet, non pas tout le pouvoir, en tout cas pas l'apparence du pouvoir, qui est par exemple le président Tebboune, mais ceux qui sont réellement au pouvoir, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les décideurs, les généraux. Et c'est moins de la haine qu'un fonds de commerce, parce que ces gens-là ne tirent leur légitimité, c'est la fameuse APL, hein, l'armée nationale populaire, qui est l'héritière de l'armée du FLN, de la NL, et donc ceux-là ne tirent leur légitimité dans un pays quand même qui ne progresse en rien sur les plans de la démocratie, de la participation des citoyens, d'élections libres. Tout cela est encore un rêve. En Algérie, il n'existe pas. Bref, la seule légitimité qu'ils ont, c'est ça, c'est d'être en quelque sorte les détenteurs de l'indépendance.
Ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement algérien, il instrumentalise finalement ces relations avec la France.
Et on voit bien d'ailleurs que là, moi, ce coup de froid, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître au gouvernement, enfin plus encore, non pas Castex, au président Macron, ça commençait bien avant Castex, c'est vrai d'avoir fait toute une série de gestes extrêmement importants avant même, hein, avant même le rapport Stora. C'est vrai qu'il y a eu la déclaration sur le crime contre l'humanité qui avait été faite à Alger alors qu'il était candidat, donc en 2017, et qui avait été un séisme, qui avait été évidemment très apprécié en Algérie, mais qui avait secoué beaucoup politiquement en France, parce que vous avez quand même encore un attachement assez viscéral chez certains, les descendants des colons, des harkis, etc., qui ont un rapport plutôt compliqué, qui reste compliqué. Bref, alors évidemment, ce rapport Stora, des gestes tout récents sur les archives, sur la reconnaissance de la culpabilité de l'État français, des militaires, dans l'assassinat de l'avocat nationaliste Boumendjel. Bref, il y a eu toute une série de gestes qui, en effet, ne sont pas reçus, mais qui ne sont pas reçus par ces décideurs. Il y a eu un durcissement tout à fait récent des généraux algériens qui parlent maintenant, par exemple, de millions de chahides, de victimes, c'est-à-dire les morts résistants de la guerre d'Algérie. Non, il y en a un million et demi, même selon les historiens même algériens. Bon, et selon les historiens français, on est plutôt entre 250 000 et 500 000. Mais bref, cette espèce de surenchère victimaire montre qu'il y a un raidissement des généraux. C'est d'ailleurs intéressant de constater que le président Tebboune, qui lui-même, bon, mal élu, très mal élu, il y a un an et demi, qui a succédé donc à Bouteflika, mais bref, lui avait eu des déclarations au tout début plutôt favorables aux suites du rapport Stora, ce travail qui est engagé par la France. Et hop, maintenant on voit bien que les militaires, les généraux, les décideurs resserrent la bride. Et ce coup de froid, il intervient à ce moment-là. On a l'impression que ces décideurs ne veulent rien lâcher. D'ailleurs, le chef d'état-major.
Ils n'ont jamais tendu la main à la France. Alors, il n'y a jamais eu de geste à l'égard de la France.
En plus, ils reprochent à la France, en quelque sorte, d'être partisane du mouvement Irak, hein, le mouvement contestataire populaire qui continue. Et donc, la France, en effet, se retrouve piégée là-dedans.
Louis Osalter, vous êtes d'accord avec ce que disait tout à l'heure Louis Dragnel? Il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui dise ça suffit.
Je suis pas sûr que ce soit la bonne position à adopter pour la France. Parce qu'en fait, on aura beau dire tout ce qu'on veut, le problème est d'abord algérien. Le problème, c'est que la guerre d'Algérie n'est pas terminée, en réalité. Les accords de 62, les accords d'Évian, c'était un cessez-le-feu. Ça ne pouvait pas être un armistice parce que c'était une guerre civile. On était dans le cadre d'un même pays et l'Algérie, à l'époque, était un département français. Depuis, la France a effectivement fait des pas pour reconnaître au moins des faits et essayer d'établir une mémoire partagée et un petit peu apaisée. Et mes deux confrères l'ont très bien dit, le problème, c'est que la vie politique algérienne, le système politique algérien, carbure essentiellement une chose, c'est le ressentiment. Moi, je dirais pas la haine anti-française, parce que c'est vrai que dans la population algérienne, qui est très jeune, qui n'a pas connu la guerre, c'est pas vraiment ce qui est cultivé, mais le système politique vit de ça. C'est la rente, c'est le ressentiment envers la France coloniale. Et tant que l'Algérie ne s'est pas sortie de ça, elle n'ira jamais de l'avant. Quant à la position adoptée par la France, alors Emmanuel Macron fait un pari, encore un, qui est la réconciliation, tendre la main. On voit les gages qu'il a donnés. Il y a plusieurs dates importantes qui l'attendent. 17 octobre, ce sera l'anniversaire de la répression de la manifestation des travailleurs algériens par la police française en 61, qui sera l'occasion d'un message qui sera adressé par le président de la République. Et surtout, en mars 2022, en pleine campagne présidentielle, 19 mars, commémoration des accords d'Évian. Là, le président Macron va être très attendu au tournant, parce que c'est un sujet qui va évidemment s'inviter dans la campagne présidentielle. Et c'est heureux, parce que c'est un sujet important pour la France. Mais tant que les Algériens n'auront pas eux-mêmes tourné une page en arrêtant de faire carburer leur vie politique interne, à partir de là, on n'avancera jamais.
Et si je vous comprends bien, ils sont très contestés par la rue, tout simplement.
Effectivement. Si je comprends bien, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous reviendrez nous en reparler. Merci beaucoup à tous les trois. Merci les grandes voix du vendredi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.